Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission « Par ici les sorties » sur Radio Grand Ciel. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Bouzy à l'occasion de la sortie de son livre « La loi de la guillotine ». Bonjour Alain Bouzy.
Bonjour Bernadette Loison.
Quand vous êtes rentré à l'Écho à l'âge de 17 ans, vous aviez pensé déjà faire toute votre carrière dans le journalisme ?
Oui, parce que j'étais convaincu qu'il n'y avait que ça que je savais faire. J'avais fait des études de droit parce que mes parents m'avaient dit « le journalisme, ça ne mène à rien, il faut faire du droit pour avoir une vie à peu près décente ». Alors j'avais fait un deal avec eux, je fais mon droit et après je fais ce que je veux. Et donc dès que j'ai fini mes études de droit, je suis entré à l'Écho républicain. Mais là, quand vous dites à l'époque où j'avais 17 ans, j'étais pigiste, c'était pendant mes études de droit à Tours. Donc le week-end, je rentrais chez mes parents à Châteaudun et je faisais les petits papiers, les fêtes de village et les assemblées générales.
Voilà, et quand vous êtes parti, vous étiez rédacteur en chef.
En 1991, je suis parti pour aller à Première, le magazine de cinéma.
Vous avez travaillé à Match aussi, je crois.
Alors j'ai fini ma carrière à Paris Match, j'ai beaucoup travaillé aux éditions internationales de Paris Match. Et j'ai créé un magazine qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelait Match du Monde et qui était un magazine de découverte des pays, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Amérique, etc.
Et vous étiez en Chine pendant un moment pour cela.
Oui, j'étais en Chine pendant plusieurs années et puis aussi j'ai été un an à Moscou, j'ai lancé le Paris Match russe.
Et puis à Milan, vous parlez toutes ces langues ?
Je me débrouillais, parce qu'à l'époque il fallait se débrouiller, mais j'ai un petit peu oublié, je dois vous l'avouer.
Alors, avant qu'on passe à votre livre, un rédacteur en chef, ça fait quoi au juste ? Quel est le rôle d'un rédacteur en chef ?
C'est un chef d'orchestre, c'est lui qui est le garant des grands équilibres de son titre, de son journal, qui veille à ce que les papiers ne fassent pas doublon ou qu'ils ne s'opposent pas vraiment. Et en particulier à Match, c'est très important, le rédacteur en chef, parce que c'est lui qui juge de ce qu'on appelle le mur, c'est-à-dire qu'on met les différentes pages sur le mur comme un immense tableau. Et c'est là que se dessine le journal et qu'on voit les forces, les faiblesses et qu'éventuellement on corrige les choses. Donc il n'y a pas d'autre meilleure définition que de dire qu'un rédacteur en chef, c'est un chef d'orchestre.
Et puis, vous êtes passé à l'écriture. Enfin, une autre forme d'écriture, dois-je dire, parce que le journaliste écrit pas mal.
Oui, mais le livre auquel vous faites allusion et pour lequel vous avez la gentillesse de m'inviter, c'est un livre de journaliste. Même si j'ai fait des recherches historiques, la façon dont il est traité, la façon dont il est écrit, c'est du journalisme.
Il y a un sous-titre à la loi de la guillotine, c'est la véritable histoire de la bande d'Orgères. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sujet ? Parce que c'est un sujet qui a déjà été traité assez souvent.
C'est pas ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a déplu. C'est-à-dire, je considérais que la façon dont beaucoup d'auteurs s'étaient emparés du sujet était inexacte et qu'ils répétaient les uns les autres des bêtises qui avaient été publiées précédemment. On a, dès le début de cette histoire et avant même la fin du procès, un des secrétaires du tribunal qui s'appelait Leclerc avait publié une histoire de la bande d'Orgères à partir des pièces du procès, notamment de l'instruction, mais sans circonspection, sans le filtre, disons, d'une mise en perspective des choses. Et on a commencé à ce moment-là à raconter que c'était une armée avec un général en chef qui régnait sur un territoire immense, que ces gens étaient des cannibales et des anthropophages. Donc tout ça était très exagéré. Et surtout, beaucoup des auteurs ne sont pas retournés à la source, c'est-à-dire aux pièces du procès qui sont aujourd'hui aux archives départementales d'Eure-et-Loir et qui sont une mine extraordinaire. Parce qu'une fois qu'on a un petit peu débroussaillé le côté juridique et un peu difficile à comprendre, ben, y a toutes les informations sur ces personnages, leur nom, la façon dont ils s'expriment, leur signalement très précis, leur habitude de vie, savoir s'ils sont mariés ou pas, certains ont des enfants, donc tout est dans les pièces du procès. Donc à partir de ça, on peut faire revivre la véritable histoire de la bande d'Orgères.
C'est ce à quoi vous vous êtes donc occupé. Et donc, vous avez consulté des archives énormément.
Ben, j'ai fait ça pendant, oui,
20 ans, c'est ça ?
Alors, non. Les archives, pas pendant 20 ans, pendant 20 ans, j'ai constitué un dossier, j'ai rencontré des gens qui, de près ou de loin, avaient un lien avec cette histoire. Par exemple, le juge Fougeron, le juge de paix d'Orgères en Beauce, qui a initié cette affaire et qui a commencé à traquer les brigands, a encore des descendants aujourd'hui qui s'appellent toujours Fougeron et qui habitent là où il habitait. C'est-à-dire que la maison n'a pas changé. Donc on a l'impression, quand on visite cette maison, qu'on entre dans l'histoire. C'est très saisissant. C'est ça qui m'a intéressé. C'est en ça que c'est un travail aussi de journaliste et pas seulement un travail d'historien.
On va écouter une première plage musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi ?
Alors j'ai choisi François Couperin parce que c'est un, je trouve que c'est un compositeur qui sait parler à l'âme et au cœur. Et j'ai choisi une petite pièce qui s'appelle « La linotte effarouchée » parce qu'il nous parle de ce petit oiseau qu'on enferme dans une cage de façon à l'entendre chanter et elle se heurte aux barreaux. C'est une métaphore sur les prisons puisque je parle beaucoup de la prison dans ce livre.
Oui, bien sûr. Vous écoutez Radio Grand Ciel, c'est Par ici les sorties, et nous sommes en compagnie d'Alain Bouzy, qui vient de sortir La loi de la guillotine, avec pour sous-titre La véritable histoire de la bande d'Angers. Donc on sait bien clair, c'est bien la véritable...
Telle qu'on peut l'imaginer, parce qu'évidemment il y a une part de mise en scène. On ne peut pas se livrer simplement à une reproduction des documents dans leur vérité historique et dans leur sécheresse. Il faut mettre tout ça en perspective, il faut scénariser et faire vivre les personnages. Mais donc je me suis autorisé à quelques petites licences pour faire vivre ces personnages. Mais disons que la 90 ou 95% des faits cités sont exacts, oui.
Ça tombe bien que vous parliez de ça, parce que je voulais vous en parler. Page 393, par exemple, vous nous parlez de cette femme qui est d'une bonne corpulence. Elle a des cheveux châtains, les yeux gris-bleus, un nez bien dessiné, des taches de rousseur. Elle est vêtue d'un corset de serge grise à grandes fleurs imprimées blanches et rouges.
Je n'ai rien inventé. Tout ça, c'est son signalement devant la justice. Et ce signalement figure dans les pièces du procès.
Parce que sur la couverture, on peut lire « récit ».
Oui, oui, c'est un récit, c'est pas un roman.
Non.
Parce que si c'était un roman, j'aurais dû inventer des personnages, j'aurais dû inventer des histoires et des histoires d'amour, par exemple, ce qui aurait beaucoup plu à mon éditeur. Mais moi, je ne voulais pas, je voulais faire vraiment un récit, c'est-à-dire faire vivre une époque, le directoire, des personnages qui soient brigands, ou magistrat, parce que je ne m'intéresse pas qu'aux brigands, je m'intéresse aussi aux magistrats d'Orgères qui a commencé l'instruction, aux magistrats instructeurs à Chartres, et puis au terrifiant président du tribunal criminel qui s'appelle Gilbert Liendon, et qui a un lourd passé politique. Il a été l'adjoint de Fouquier-Tinville au tribunal révolutionnaire à Paris et il a fait couper des dizaines, peut-être même des centaines de têtes. Donc ces trois personnages m'ont beaucoup intéressé, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Oui, parce que vous parlez de deux terreurs.
Oui, oui, on ne parle souvent que de la grande terreur qui est celle de 1793-1794 qui se termine avec la chute de Robespierre en juillet 94. Mais il y a eu, dès la fin 92, une première terreur, notamment à Paris où la Commune de Paris veut imposer sa loi à tous les représentants du peuple, notamment tous ceux qu'on appelle les Girondins, qui ont une conception beaucoup plus démocratique de la politique et qui se heurtent à ces Jacobins qui veulent tenir la Révolution, sachant que si on la tient pas d'une main de fer, ça va se déliter dans les provinces.
La France traverse une période difficile, dites-moi Alain Bouzy, parce que la Révolution est terminée, ce n'est pas encore l'Empire, et dans les campagnes, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'autorité.
On peut pas dire que la Révolution est terminée, parce que, vous savez, la Révolution, c'est un long processus. On pourrait même dire, si on voulait être provocateur, qu'elle n'a pas vraiment commencé, la Révolution. Jusqu'à la mort du roi, on est dans une monarchie constitutionnelle. Bon, avec, évidemment, à la fin, cette terreur qui s'installe. Mais tout au long de ce directoire, le système est extrêmement fluctuant parce que justement on a tellement peur d'un régime autoritaire qu'on a voulu placer à chaque niveau un représentant de l'État, un représentant du pouvoir, ce qui fait que par exemple il y a au niveau de chaque département, au niveau de chaque ville, au niveau de chaque tribunal, un commissaire du directoire qui est l'œil de Moscou, comme on dit aujourd'hui, auprès des administrations, et qui évite justement ceux qu'on appelle les mitoyens, c'est-à-dire ceux qui ont une conception un peu plus souple et un peu plus centriste des choses, ne prennent le pouvoir. Ce qui est le cas à Chartres, par exemple, où ce sont les Girondins qui, à une époque, essayent d'avoir une influence, mais se heurtent aux sans-culottes agitées par un ecclésiastique défroqué qui s'appelle Charles, et qui a des menées très subversives. À Chartres, la situation politique est extrêmement tendue, plutôt moins qu'ailleurs, mais il y a quand même des dissensions qui compliquent beaucoup l'administration et le gouvernement du département et de la ville, oui.
Plusieurs fois, on lit que c'est le manque de pain qui incite les personnes à se transporter dans la Beauce, et on voit qu'il... La plupart du temps, ils sont bien accueillis d'ailleurs. On leur donne du pain et on les laisse dormir dans la grange.
Oui, vous posez la bonne question parce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi les autorités n'ont pas essayé d'éradiquer plus tôt ces phénomènes de délinquance de brigands. En fait, les autorités ne sont pas tellement laxistes. Elles ont surtout d'autres préoccupations. La première, c'est de nourrir les populations. Et notamment de nourrir Paris qui crie famine, ce qui explique que de Paris arrive en Beauce une foule de gens, de petits employés, d'ouvriers qui n'ont plus de travail à Paris et qui viennent mendier leur vie, comme ils disent, en Beauce. Ça, c'est la première raison qui fait que la justice ne leur court pas après, la gendarmerie non plus qui est complètement ruinée. Mais l'autre phénomène important, c'est que après les guerres extérieures, dès 92, la République était en guerre contre les empires coalisés, l'Autriche et la Prusse, il y a une terrible guerre intérieure qui s'appelle la guerre de Vendée. Et donc, ça mobilise toutes les énergies. Ce qui fait que les voleurs, même s'ils sont un peu assassins de temps en temps, ce n'est pas la priorité du gouvernement, des gouvernements nationaux et locaux.
Mais justement, entre la bande d'Orgères et les Chouans, il y a des amitiés?
Alors, ça, c'est une des découvertes, je crois, que j'ai faites dans les pièce du procès, dans les archives, en effet, il y a des interrogatoires, notamment de deux personnages, l'un célèbre qui s'appelle le Rouge d'Onneau, rouge parce qu'il avait les cheveux roux et qu'il était prétendument né du côté d'Onneau, c'est pas prouvé. Un second qui s'appelle Jacques Richard, qui est né au Mans, le borgne du Mans. Alors lui, on a bien sa biographie et son pédigré. Et ces deux personnages confient tout à fait qu'ils ont travaillé pour la chouannerie, en étant sans doute homme de main et vague-mestre. C'est eux qui font passer les courriers et les plis entre les chouans ici de Eure-et-Loire et leur base, leur centre, qui est plutôt du côté du Mans. Mais les chouans qui sont en action dans l'Eure-et-Loire, évidemment, ils sont loin de leur base. Ils ont besoin d'avoir des mercenaires. Et les mercenaires, ils les trouvent parmi les brigands. Donc ça, c'est un fait avéré et un fait assez peu connu.
Et puis, il y a les mioches.
Alors, les malheureux mioches, ce sont les maltraités de l'histoire. Ce sont tous ces gamins qui ont fui, notamment Paris, sans le sou, sans parents, sans moyens de subsistance, et qui se retrouvent sous la houlette, sous la férule, il faudrait dire, de plus âgés, parfois pas beaucoup plus âgés qu'eux, et qui leur rendent des petits services et qui sont, disons, leurs espions. C'est eux qui vont guetter s'il y a une maison bonne à faire, comme on dit, ou pour dire combien il y a de personnes dans telle et telle ferme. Est-ce qu'ils sont 5, est-ce qu'ils sont 8, est-ce qu'ils sont 10. En fonction de ça, on verra si on attaque et à combien d'attaquants on viendra. Mais alors, les mioches sont vraiment des petits garçons, des jeunes. Ce sont des jeunes gens, ils ont entre 10, 12 et 18 ans, qui ont une situation vraiment terrible.
Oui, c'est assez terrible parce qu'il y en a un, par exemple, qui meurt sous les coups de bâton parce qu'il n'avait pas voulu glisser sous un portail.
C'est le petit gars d'Étréchy. Alors, on connaît bien son histoire parce que ça se passe en 1791 et c'est la première affaire que le tribunal va retenir. Le tribunal n'ira pas plus loin dans la recherche d'histoires plus anciennes, parce qu'on pourrait remonter beaucoup plus loin dans le temps. Cette bande d'Orgères, on l'appelle bande d'Orgères, à partir du moment où le juge de paix d'Orgères, Fougeron, est intervenu après l'attaque de Milloire, qui est un peu la Milloire dans la commune de Poupry, qui est un peu l'élément fondateur de cette histoire, le brûlage des pieds du citoyen Foussé, ce qui suscite évidemment le grand mécontentement de Fougeron, puisqu'il est à quelques kilomètres de là, entre Poupry et Villeprévaux, commune de Thillet-le-Penneux, il y a 10 kilomètres. Et puis surtout, là encore, dans les recherches pour le livre, on a découvert que les deux familles, Fougeron et Foussé, sont en famille, par alliance. Donc ils se connaissent forcément, et le juge ne trouve pas du tout à son goût qu'on vienne attaquer son parent par alliance. Donc c'est ça qui fait qu'on appelle la bande d'Orgères, mais les brigands dans la Beauce, ils étaient là depuis belle lurette.
Et il y a plusieurs bandes, ils se retrouvent.
Voilà, là aussi c'est quelque chose, je veux tordre le cou à cette légende qui nous parle d'une armée conduite par le général en chef, le fameux Beaufrançois, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Bon, ce sont des petites bandes qui s'inféodent les unes les autres en fonction des coups. C'est pas la même chose si on attaque une mercière dans un village, à deux ou trois ou quatre, ça suffit. Mais si on attaque une ferme très importante, close de mur avec des chiens, là, il faut être au moins une dizaine ou une douzaine, ce qui était le cas à l'attaque de la ferme de Milloire, dont je parlais tout à l'heure, et de l'assassinat, puisqu'il en est mort, du citoyen Nicolas Foussé.
Mais ce sont des gens quand même qui n'ont rien, parce qu'on peut lire dans votre livre qu'ils volaient même le linge sale dans les greniers.
Oui. Alors on s'interroge, je me suis posé la question, pourquoi on s'intéressait tant au linge, sale ou pas sale d'ailleurs, et au tissu. En fait, il faut ne pas oublier que toute l'économie est à l'arrêt. Entre 1795 et 1799, le pays ne fonctionne plus. Donc les manufactures ne marchent pas, il n'y a plus de tissu. Donc le tissu et les vêtements sont une denrée précieuse. Ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, la plus importante, c'est que tous ces brigands ont un signalement. C'est-à-dire que quand ils attaquent, on donne un signalement. On dit qu'il avait une veste bleue et un pantalon jaune. Et donc ils doivent changer très souvent de vêtements de façon à mettre les gendarmes en échec. Donc ils se déguisent d'une certaine façon. Et il y en a un qui est expert en déguisement, c'est le Rouge d'Auneau, qui lui fréquente le Palais Royal et la Contre-Révolution. Et c'est là qu'il fréquente les gothiques de l'époque ou les punks de l'époque, qui sont les incroyables, qui ont des tenues extraordinaires en couleur, des chapeaux extravagants, des souliers pointus et des écharpes énormes autour du cou, comme on fait aujourd'hui, on n'a rien inventé. Et donc il revient, quand il a dépensé son argent à Paris, il revient dans des tenues extravagantes qui font qu'on se moque de lui, car c'est un personnage fantasque, un original, un mariole, j'ai dit dans le livre.
Mais néanmoins, la fermière continue à lui donner du pain sans vouloir le lui faire payer.
Là, je vois qu'on est sur une radio généreuse. On pense aux malheureux qui enfin. Oui, tous ces gens, je parle des paysans, des laboureurs, sont généreux. C'est aussi pourquoi ça attire énormément de monde en Beauce. Oui, on sait que si on vient ici demander un bout de pain, on aura non seulement un bout de pain, un peu de soupe si on fait du charme à la fermière, et surtout un abri pour la nuit. Donc ça n'a pas de prix, ça.
Dans ces cas-là, on va dans l'écurie, sur de la paille.
Dans l'écurie, dans l'étable, oui, oui. Tout le monde vit dans les étables et les écuries, et pas seulement les malheureux, les employés de la ferme, le berger, le charretier, le calvénier, comme on dit en Beauce, c'est l'homme à tout faire, habite, dorme dans la grange. Avec parfois les mieux traités ont un lit en bois, un bafflant, mais sinon on dort dans la paille, oui.
Puisque vous insistez un peu sur ce terme-là, j'ai justement remarqué dans le livre qu'il y avait tout un vocabulaire que vous avez conservé. On parle par exemple de chaumillette, de cabouin, des ouches.
Oui, c'est des mots que nos plus anciens connaissent encore. Hein. Arriver dans ses ouches, c'est arriver chez soi. Les ouches, c'est le petit terrain qui est autour de la maison, le verger, le jardin potager. Le cabouin, oui, c'est un petit recoin sombre. Ou le taudion, c'était là où logeait la domestique. C'est une déformation du taudis. C'était sûrement pas très agréable de vivre là. La chaumillette, alors ça, c'est un mot complètement oublié. C'est la petite faucille qui permettait aux habitants des bords de la Connie, vous savez, cette région de marécage entre Châteaudun et Pathé, de récolter la rouche. La rouche, c'est le roseau qui permettait de couvrir les maisons. Les maisons de cette région, encore aujourd'hui, ne sont pas couverte en chaume, mais en rouche, en roseau.
Alain Bouzy, que venons-nous d'entendre là ?
Alors on vient d'entendre une pièce de Joseph Cantaloube qui a travaillé sur les chants d'Auvergne, et c'est Véronique Jans qui chante, mais ce qui m'a intéressé, vous parliez tout à l'heure des mots oubliés, c'est exactement ce que voulait faire Cantaloube, qui est un auteur auvergnat, un compositeur auvergnat, mais c'est-à-dire de transcender le folklore, ne pas en faire simplement une chose passéiste, mais en faire de l'art. Là, Cantaloube en fait de l'opéra avec cette voix formidable de Véronique Jans. C'est toute proportion gardée ce que j'ai essayé de faire en utilisant ces mots, en essayant de ne pas les voir disparaître complètement. C'est un petit peu la même démarche.
D'accord, c'est un clin d'œil alors.
Un clin d'œil, oui.
Donc dans la toute première partie du livre, et même assez longtemps, on parle de tout ce qu'ont fait ces bandits, en quelque sorte. Et puis après, il y a la longue traque, qui est une chose difficile. Et après, il y a la prison, finalement.
Alors
et le procès.
C'est une traque difficile parce que les malheureux gendarmes ne peuvent pas arriver à éradiquer ces bandes. Et donc, le citoyen Fougeron, le juge de paix d'Orgères, fait appel à l'armée. Il écrit directement au ministre, ce qui est audacieux pour l'époque. Et c'est en cela que cette histoire comme je l'ai dit dans une conférence, d'un fait divers devient une affaire d'État, c'est-à-dire que là, le gouvernement se préoccupe grandement de ce qui se passe en Eure-et-Loir, et on envoie l'armée. Donc on envoie une centaine de hussards, ça fait 100 cavaliers sur la plaine, ça change la donne. Et là, on arrête beaucoup de monde. On commence par arrêter un jeune homme qui s'appelle Louis-Germain Bouscan. Son surnom, c'est le Borgne de Jouy. Jouy, ce n'est pas le Jouy à côté de Chartres, c'est Jouy en Josas. C'est un petit ouvrier de la manufacture de Oberkampf, la manufacture de toile de Jouy. Mmh. Et lui, il balance, il dit vraiment, bah, voilà où ils sont, voilà quels sont leurs noms. Mais sous la pression des gendarmes et des magistrats, qui veulent toujours en savoir plus, il invente et il mouille des malheureux qui sont des copains qu'il a rencontrés, qui n'ont pas grand-chose à se reprocher, si ce n'est d'être malheureux et d'avoir faim. Et donc, à partir de ce moment-là, on enferme dans la prison de Chartres une foule très importante de gens, pour certains des innocents. On a aujourd'hui les listes encore dans les pièces du procès, les listes des gens qui sont incarcérés. On voit pour certains qui sont rien à voir avec cette histoire. Mais la prison de Chartres, c'est le vieux château des comtes de Chartres qui se trouve sur la place Billard, la place du marché couvert où il y a le marché le matin. C'était là où il y avait cette vieille forteresse qui est tombée en ruine. Elle n'était pas faite pour accueillir des centaines de gens. Alors une fois qu'on a rempli les caves, les geôles, toutes les pièces dans des conditions épouvantables d'hygiène, qui font que la mortalité est terrible. Il y a 64 personnes qui vont mourir de leurs conditions de détention. Il est urgent de trouver un autre endroit, d'autant qu'on envoie à Chartres des chouans qui ont été arrêtés du côté du Mans et qu'on ne veut pas juger localement parce qu'on sait qu'ils pourraient bénéficier de complicité localement jusque dans la magistrature. Donc on les envoie en Eure-et-Loir et à Chartres pour se faire juger. Et donc, on se trouve confronté à un problème quasiment insoluble. La surcharge pénitentiaire, c'est pas un problème nouveau. Et donc, on décide de transformer le couvent des Carmélites en prison. Alors, ce n'est pas une prison à proprement parler. Un couvent, même si c'est pas un endroit très amusant, c'est quand même un peu plus confortable qu'une prison.
C'était les femmes, peut-être, qui étaient là.
C'était les femmes, oui. Les femmes et les malades. Il y avait aussi des hommes. Et ceux qui avaient quelques moyens, parce qu'il y avait deux traitements chez les prisonniers, soit si vous n'aviez rien, vous étiez à la paille, c'est-à-dire que vous couchiez par terre avec juste un brodeau et un bout de pain, soit vous étiez à la pistole, vous aviez les moyens de payer, et là on pouvait vous donner des conditions un peu plus confortables.
Un certain nombre passeront sous la guillotine.
Alors après un procès retentissant, il y aura 23 condamnés à mort, 2 se suicideront et 21 seront guillotinés en place publique sur la place du marché aux chevaux, à peu près à la place de la médiathèque aujourd'hui à Chartres. Et ils seront décapités là devant une foule hystérique le 3 octobre 1800.
On n'a pas le temps, malheureusement, de parler beaucoup des masques qui ont été faits.
Quel dommage !
Oui, je suis d'accord avec vous.
C'est la pièce principale, les objets principaux de l'exposition qui est à la médiathèque en ce moment. Donc j'encourage tout le monde à venir voir cette exposition à la médiathèque de Chartres. Voir aussi une autre exposition à la maison de la Beauce d'Orgères-en-Beauce qui parle aussi de cette histoire de la bande d'Orgères. Mais les masques, vous avez raison, on voit combien la vie a cabossé ces personnes. On voit les traces de blessures, les cicatrices, l'œil borgne du Borgne du Mans. On voit les traces de petites véroles. On me dit, oh, mais c'est terrifiant, ces masques mortuaires, c'est la mort. Et moi, je dis non, c'est la vie. On voit que cette vie, elle palpite dans ces masques de plâtre. C'est très émouvant.
Merci Alain Bouzy.
Merci.
Pour les amis de la tour, s'est tué ce matin, grand-mère. Nous n'irons pas à la messe demain. Il s'est jeté de la tour en me tendant les mains. Grand-mère, il m'a semblé que j'avais du chagrin. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle. Le roi savait ça. Prisonnier de la tour était mon seul ami. Grand-mère, nous n'irons pas à la messe aujourd'hui. Il était mon seul amour, la raison de ma vie, grand-mère, et ma jeunesse était éteinte avec lui. Si le roi savait ça, Isabelle,